Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Justine Chaban et sa co-autrice qui n'est pas présente in vivo avec nous, mais qui fera partie de l'interview par l'intermédiaire de Justine, pour la sortie de leur livre aux éditions Viber Psychologie Positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job. Donc aujourd'hui, on a Justine qui fera sa part à elle et porte-parole également pour Ilona Bonniewell qui n'est pas présente là tout de suite mais qui a coécrit ce livre avec Justine. Et donc on va parler de psychologie positive, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de s'épanouir dans son travail, on va parler du temps, on va parler de plein de choses. Justine, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir invitée, Laura.
Avec plaisir. Je vais te laisser la parole pour commencer. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, qui es-tu?
Grande question. Qui suis-je? Je suis déjà de métier une psychologue du travail et des organisations. Et j'ai eu la chance de me former à la psychologie positive auprès de ma co-autrice, qui est Ilona Bonniewell. Donc j'ai vite glissé dans la psychologie de ce côté-là de la psychologie positive parce que c'est une partie qui m'a bien intéressée et encore plus ses apports dans le monde du travail et des organisations. Je suis maintenant associée du cabinet Positron et ça fait, je me suis rendu compte hier soir que ça faisait déjà 7 ans que j'étais dans cette branche et dans ce courant-là. Donc voilà pour moi. Peut-être je peux dire un petit mot sur Ilona, elle est pas là, mais pour la présenter aussi avec l'envergure de la personne qu'elle est. Ilona, c'est un des leaders mondiaux de la psychologie positive parce que une des premières universitaires à travailler dans la psychologie positive avec le fondateur de la psychologie positive, Martin Seligman, et c'est la première à avoir créé les masters de psychologie positive dans les universités. Aujourd'hui, elle est professeure émérite à l'Université d'East London et aussi, du coup, la CEO de Positron, mon associé là-bas. Donc, avec beaucoup d'ouvrages à la clé, beaucoup de vidéos, de têtes, de conférences, on intervient à la fois dans des entreprises, mais aussi en individuel, dans l'accompagnement. Et du coup, on est très contente d'avoir, avec My Happy Job, co-écrit ce nouveau livre sur la psychologie positive et les clés de la motivation et de l'épanouissement au travail.
Alors justement, avant qu'on parle de psychologie positive, j'ai une question qui me vient peut-être pour nos auditeurs, auditrices. Tu t'es présentée donc comme une psychologue du travail. C'est peut-être un peu abscon pour beaucoup d'entre eux qui connaissent sûrement les cliniciens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un psychologue du travail concrètement?
Oui. J'ai pas trop de frontières entre ce qu'est un psychologue, peu importe où il travaille. Déjà, un psychologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à comprendre le fonctionnement humain, accompagner le fonctionnement humain. Et puis, du coup, le psychologue du travail et des organisations, il accompagne les humains dans le monde du travail sur des enjeux professionnels de différentes façons et en fonction, alors moi je vais parler sous l'angle psychologie positive au travail, mais sur les enjeux et les clés de motivation, de satisfaction, de gestion du temps, alors en tant qu'individu dans son travail, en tant que manager d'équipe, en tant que dirigeant, mais on a accompagné surtout les thématiques qui concernent, qui nous concernent avec le travail, mais je dis pas trop de frontières entre les psychologues parce que il y a toujours un petit peu des ponts, le travail au milieu de notre vie, dans notre vie il y a le travail, donc voilà. Mais peut-être il y a une petite différence ici avec le clinicien qui va accompagner, qui peut accompagner sur des thématiques plutôt de vie, de pathologie, de souffrance qui sont relatives, mais aussi d'épanouissement, avec toujours cette thématique d'épanouissement dans la vie, mais avec des thématiques plus précises et parfois plus qui demandent une autre spécialité. Je pense rapidement, tu vois, l'accompagnement des troubles alimentaires, l'accompagnement de l'anxiété dans la vie relative à certains sujets, des anxiétés sociales, des choses comme ça. Donc, on va plutôt s'appuyer à travailler ça dans le champ du travail.
Et alors, du coup, qu'est-ce que la psychologie positive, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas trop, c'est quoi la psychologie positive? Et tu me disais au début que ce qui t'avait aussi séduite, entre guillemets, c'était justement toutes les applications au travail. En quoi ça peut nous aider concrètement dans notre vie professionnelle?
Donc, dans la description de ce que je disais du psychologue, pour moi, c'est important d'expliciter que la psychologie positive, c'est, on va dire, une psychologie qui est, à mes yeux, un courant dans la psychologie déjà et complémentaire d'une psychologie plus traditionnelle. Comment j'essaie de l'expliquer, c'est important dans la psychologie d'accompagner la souffrance, d'accompagner des thématiques et de comprendre ce qui se passe et d'être présent ici. La psychologie positive, elle s'intéresse, elle, à comprendre les mécanismes du bon fonctionnement, c'est-à-dire comment c'est quand on est bien, quand on se sent bien. Et la psychologie positive au travail, c'est comment c'est, qu'est-ce qui fait qu'on peut être motivé dans notre travail, qu'on peut y trouver une source d'épanouissement. Qu'est-ce qu'il y a comme levier sur lesquels on peut appuyer? Alors, on comprend que si ces leviers sont remplis, ils nous amènent de la satisfaction et l'engagement. Si ces leviers ne sont pas remplis, ils peuvent nous amener de la souffrance. Donc, on peut très bien parler aussi des sujets compliqués, des sujets qui peuvent être difficiles, mais on va toujours tirer dans cette optique de ressources et cette optique de ce qui marche. On a vu et on a vu, alors dans le on a vu, ce qui est très important à vous dire dans la psychologie positive, c'est que c'est une discipline qui est très relié à de la recherche, à de la recherche universitaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ces processus en faisant des analyses, des groupes contrôles relatifs à des groupes expérimentaux qui vont tester des pratiques. Donc, il y a une partie derrière qui est assez solide au niveau scientifique, bien que c'est toujours une science qu'on met pour essayer de comprendre l'humain. Donc, il y a toujours une certaine distance à prendre avec cette recherche, mais elle est solide dans le travail scientifique pour essayer de comprendre les mécanismes de ce bon fonctionnement. Tu m'as
Ok.
posé deux questions en me disant ça. C'est quoi, mais à comment elle peut nous aider? Elle peut nous aider justement à comprendre chez chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, finalement, comment on est, comment notre spécificité ou notre unicité elle est, pour qu'on comprenne ce qui marche pour nous en termes de ces leviers d'engagement, de motivation, de satisfaction. Puis une fois qu'on comprend son mécanisme, qu'on comprend les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, ben ça nous aide finalement à avancer. Nous, on dit à être performant dans la durée. On utilise ce mot de performance durable, mais dans le sens vraiment dans la durée, capable, motivé, avoir envie. Et je crois aujourd'hui pour vous qui nous écoutez, les entrepreneurs, il y a cette question aussi de garder la motivation, j'ai envie de dire garder la pêche dans la durée, parce que c'est quand même un travail de longue haleine de travailler, d'être dans une entreprise, de monter une entreprise. Et donc, si on a bien au clair ce qui nous aide, ce qui marche bien, je pense que c'est quelque chose qui un vrai levier pour nous tous.
Alors justement, dans le bouquin que tu as coécrit avec Ilona, il y a différents chapitres, il y a différentes sections. Vous parlez des relations, vous parlez des émotions, vous parlez du temps, plein de choses. Mais le premier chapitre, entre guillemets, la première section, c'est la question de la vitalité. Alors ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que c'est un sujet qui est super important, évidemment, et que des fois passe un petit peu à la trappe des questions mentales et émotionnelles qui sont souvent, surtout chez les entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent souvent sur les questions de mindset. Alors on parle beaucoup du mental, on parle des fois des émotions, mais alors la vitalité, ça passe un petit peu à la trappe. Alors justement, je te laisse la parole. Pourquoi c'est important de prendre soin de sa vitalité? Et si tu pouvais nous extraire tes trois conseils préférés du livre, ou d'ailleurs, pour prendre soin de sa vitalité?
C'est vraiment important pour moi qu'on replace la vitalité au cœur. Alors, dans le livre, on parle d'un modèle de motivation intrinsèque, on explique ce que c'est que la motivation qui vient de nous-mêmes. Et puis, on donne des leviers vraiment centrés sur soi, centrés en lien avec les autres. Mais au cœur de ce modèle, le petit rond central, c'est la vitalité. Parce qu'en fait, je dis souvent, quand j'accompagne des dirigeants, des managers, des équipes, je dis, on peut parler de tous ces leviers de motivation, mais déjà simplement, si on est fatigué, si on mange pas, si on fait jamais de pause, tous ces sujets, ils sont jolis sur le papier, mais ils sont aussi difficilement accessibles. Même des fois, on les entend de très loin comme des conseils, mais si on est sur des niveaux de fatigue, par exemple, ou parfois d'épuisement, c'est pas forcément très, on va dire, facile ou accessible. Donc voilà pourquoi la vitalité, pour moi, elle est au cœur de tout, vraiment au centre de ces sujets. Peut-être déjà, celui qui me vient en t'écoutant, je me rappelle de cette équipe de dirigeants, de grands magasins, qui me disait ne jamais faire de pause. Je vais ramener celui-là aussi simple de comme conseil, mais faire des pauses. Attention, on ne dit pas faire des pauses très longues, mais des fois, je dis juste prenez 5 minutes, on se pose, on arrête de faire ce qu'on a à faire, on ferme les yeux, on respire. Il y a des petites pratiques de cohérence cardiaque très guidées, des choses très simples. Même juste faire un tour, par exemple, j'ai vu dans des dernières études que il y a beaucoup de troubles avec les écrans visuels et le simple fait d'aller marcher ou d'aller voir dehors pendant une dizaine, voire une vingtaine de minutes dans nos journées, ça permet à nos yeux de faire des focus lointains et donc du coup, ça peut être une façon juste naturelle de rééquilibrer ses yeux et pas forcément pouvoir régler quelques problèmes de lunettes. Donc micro pause, cohérence cardiaque, aller dehors, déjà. Un conseil que je trouve assez simple à comprendre, mais pas forcément facile à appliquer. Manger, oui, on le sait, faire des pauses pour manger, pas mal. 20 minutes pour tout faire son repas en entier, c'est une limite qui est conseillée. Et je dis mieux manger, c'est aussi faire attention aux aliments qu'on mange, qui peuvent être bons aussi pour notre santé mentale. Donc, dedans, certains aliments... le chocolat, certains aliments qui peuvent faire du bien. Je suis pas nutritionniste, mais quoi qu'il en soit, la qualité de notre repas compte. Et le dernier conseil vitalité, c'est de trouver des activités physiques qui nous mettent dans le flow. Alors, je vous invite à aller explorer ce concept si vous le découvrez. Le flow, FLOW, de ce chercheur Miyai, Chicken Miyai, qui nous invite à faire des activités où on se sent suffisamment compétent et qui nous demande un certain niveau de défi. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de marcher ou de courir, et ben voyez ce que vous êtes capable de faire et fixez un tout petit peu au-dessus ces activités de flow. Vous savez, quand on les fait, c'est celles qui nous font perdre la notion du temps. On est complètement impliqué dedans. Et si on, c'est très sympa de faire une activité sportive qui nous amène dans ce niveau de motivation. Donc voilà peut-être mes 3 conseils les pauses, mieux manger et l'activité sportive qui mène au flow.
Alors, ça m'évoque 2 choses. La première, c'est qu'on va tous féliciter Justine d'avoir prononcé le nom de l'auteur sur le flow, parce que vraiment...
un grand travail. J'ai des tips pour ceux qui veulent, je leur donnerai.
Ouais, parce que voilà, après des années, je me rappelle quand j'ai passé mon oral de psy positif, c'était ma hantise de devoir citer son nom de famille à ce monsieur. Bon bref, ça c'était la petite blague parenthèse. Le deuxième truc qui m'est venu, c'est une question, c'est que j'entends mes auditeurs, auditrices d'avance qui peuvent peut-être se dire « oui, je sais, manger, bouger, sortir, ok, mais concrètement, comment est-ce que j'implémente de l'habitude, comment est-ce que j'arrive à m'extraire quand je suis à fond dans mon boulot, que je vois qu'il est 16 heures, que j'ai pas fini, et que j'entends Justine qui me dit « oui, mais il faudrait quand même aller prendre l'air, etc. » Comment on fait pour les prendre, en fait, ces pauses et implémenter du rituel ?
C'est une bonne question. Hein. Moi-même, je vous les partage, je n'y arrive pas tous les jours. Pour autant, mes conseils, je n'aurais pas des grands conseils généraux, mais comment ça peut marcher pour moi ? Moi, par exemple, j'ai ces journées où il y a un peu moins de rendez-vous et je sais que ma pause déjeuner, par exemple, et je vais aller dehors. J'habite à Lyon, il a neigé mardi, j'adore la neige et je me suis dit, pendant ma pause déjeuner, je vais manger sur mon petit cours de temps, mais je prends un temps pour faire mes pas. On se fait des challenges aussi à Positran où on se fait les challenges de la semaine à 10 000 pas qui nous invitent à aller dehors. Donc, le faire avec d'autres, c'est pas mal. Se prévoir ses petits temps, il y a les conseils du rendez-vous à soi-même, là, les 15 minutes dans l'après-midi. Ou peut-être, le moment aussi intéressant, c'est quand vous êtes à un moment de votre journée et on en a marre, on sait qu'il y a encore tout ça à faire. On a cette envie plutôt de se dire, allez, j'y vais vite, comme ça va finir vite. Mais on sent qu'on est en manque d'énergie. Et là, c'est un bon warning pour se dire, attends, peut-être juste une pause. Et rappelez-vous que, en fait, vous vous rendez service pour la suite de votre journée. Au lieu de se dire qu'on perd du temps, eh ben, se vraiment s'octroyer ces 5, 10, 15 minutes, c'est un bon tips. Et alors, je le mets ici au milieu, mais j'ai enregistré une méditation qui est gratuite sur le sommeil. Une petite méditation en 5-10 minutes, on peut récupérer jusqu'à 1h30 de sommeil. Et elle est sur YouTube, facile à trouver, mais je vous en parle parce que ça peut être aussi un moment quand on a ce coup de barre dans l'après-midi, plutôt se prendre la pause, là, si on peut, au milieu, pour après revenir avec un regard d'énergie. Donc, c'est pas magique, mais dites-vous toujours que vous faites du bien à vous, et si ça vous aide, que ça fait aussi du bien à votre activité, votre travail, parce que vous revenez avec plus de performance. Et ça a été montré assez bien que les minutes de sommeil font nous rendre plus performants, avec un pourcentage où les chercheurs sont pas très d'accord, mais entre 15 et 30% de performance ensuite, suite à une pause. Donc, c'est pas mal.
Alors, la méditation, on peut la trouver sur YouTube en tapant ton nom,
Oui.
par exemple, Justine Chaban.
Vous tapez positron, sommeil, et vous allez rapidement la trouver. Elle se trouve sur notre page.
Ok, parfait. Alors justement, tu parles du sommeil, je ne sais pas si tu as des chiffres là-dessus, peut-être que tu n'en as pas, mais parce que souvent on discute du nombre d'heures de sommeil qu'il faudrait avoir. Voilà. Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que c'est le même nombre de sommeil d'heures, pardon, de sommeil pour tout le monde? Est-ce que tu sais quelque chose?
Je ne serais pas assez placée dans ma tête, j'ai 5 à 7 heures, mais je ne sais pas vous donner de chiffres de la recherche, qu'il y a des gens qui dorment moins, des gens qui dorment plus, simplement se connaître, et puis il y a beaucoup de travail qui est fait sur le sommeil. En l'occurrence, la donnée qui me reste en tête sur le sommeil, c'est d'être le plus possible régulier dans ses cycles de sommeil. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît souvent, mais on l'a vu aussi l'impact que ça a sur notre santé mentale.
Ok. Alors, après ce chapitre sur la vitalité, parmi d'autres, hein, il y a un chapitre sur les émotions. Forcément, on ne peut pas parler de psychologie positive sans parler d'émotions. Et donc, dans cette section, avec Ilona, vous parlez de trois émotions qui sont très importantes en psy positive et qui sont des fois pas très connues, peut-être on entend un petit peu moins parler, que sont l'émerveillement, pardon, l'émerveillement, la gratitude et l'élévation. Qu'est-ce que c'est, ces trois émotions qu'on ne connaît pas là?
Bon, déjà, les émotions, juste pour le resituer, on est d'accord que même dans nos émotions de base, on a en moyenne 5 émotions, on dit désagréables, pour une agréable qui est la joie. À côté, on a plutôt le dégoût, la tristesse, la peur, etc. Plutôt des émotions désagréables. Alors, je vais le dire tout de suite, émotions négatives et positives, ça marche pas dans ma tête parce que pour moi, toutes les émotions sont positives. Déjà, tout ce qu'on ressent, c'est positif. À partir du moment où on a compris qu'on ressent une émotion, parce qu'il y a un message derrière et que si on entend ce message, on va pouvoir mieux réguler ce qui nous arrive. Donc ça, c'est important de le dire avant de parler juste émotions positives, agréables. C'est ça le distinguo qu'il faut faire. Donc, toutes les émotions sont positives, mais par contre, à l'intérieur des émotions, il faut distinguer les émotions désagréables à vivre et celles plutôt agréables. Et la psychologie positive, elle s'intéresse à tout le panel d'émotions, mais elle a une spécialité, on va dire, au milieu, de dire, il y a des émotions agréables. Et on les a pas beaucoup investis, ces émotions. La chercheuse qui s'appelle Barbara Fredrickson, elle travaille beaucoup sur ben, classifier les émotions agréables, voir tout le vocabulaire, enrichir notre vocabulaire, parce que si on reste sur les émotions de base avec une seule positive versus cinq négatives, on est surtout sur l'émotion, elle passe un peu à la trappe, cette joie. Et dans les émotions qui sont théorisées des émotions agréables, émerveillement, gratitude et élévation. Alors, peut-être élévation, je commence par elle. Je la trouve vraiment super sympa. J'avais commencé à travailler dans mon mémoire de recherche sur ça. Jonathan Haidt, il nous dit, l'élévation, c'est quand vous voyez quelqu'un faire un acte de bonté ou de générosité pour quelqu'un d'autre. Vous savez, quelqu'un qui tire la porte, quelqu'un qui porte un sac lourd, un service qu'on se rend, et vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer. Vous ressentez de l'élévation, c'est-à-dire un sentiment. On pourrait dire un peu d'humanité profonde, un peu plus grand, quelque chose qui nous élève, vous voyez, dans cette sensation-là. Et c'est une émotion très agréable à ressentir, et surtout aussi ce qu'elle a d'assez fort, c'est qu'elle nous invite nous-mêmes, même inconsciemment, à faire des comportements prosociaux, c'est-à-dire de nous-mêmes prendre soin des autres, sans même s'en rendre compte. Donc vous êtes beaucoup plus susceptible de tenir vous-même la porte à quelqu'un ou de rendre un service. Donc c'est quelque chose, par exemple, dans le monde du travail, qui est valorisé parce que ça permet une meilleure entraide entre des collaborateurs. La deuxième émotion, on parlait d'émerveillement, le AW en anglais, AWE, j'aime beaucoup aussi cette émotion. Alors, je ne suis pas forcément anglo-loveuse, mais j'aime bien les termes des fois d'où ils viennent. Et dans cette émotion, c'est une émotion quand on est submergé par la beauté des choses. L'émerveillement, c'est quelque chose qu'on trouve beau. Ce qui est très sympa dans cette émotion aussi, c'est qu'on n'en est pas acteur, c'est qu'il faut juste être témoin et être du coup présent ou être susceptible d'être témoin des belles choses qui sont autour de nous. Et là, je vous ramène vers la pleine conscience ou des pratiques en tout cas qui nous invitent à garder cet œil un peu ouvert pour regarder les belles choses qui nous arrivent parce que tous les jours, il y a des jolies choses qui sont pas dépendants de vous, hein, mais il y a des belles choses qui se passent. Il y a des belles choses dans dans la nature, il y a des belles choses dans des gestes de vos enfants, il y a des belles choses dans des choses que font les autres et qui peuvent vous toucher et vous émerveiller. Donc ça, c'est une jolie émotion aussi à entretenir. Et la plus connue dans la psychologie positive, et là je vous envoie enfin vers un chercheur, une chercheuse française qui s'appelle Rebecca Chanclant à Grenoble, qui est vraiment incroyable sur ce sujet, la gratitude, la reconnaissance. Donc la gratitude, c'est être reconnaissant des choses qui nous arrivent, des personnes qui nous entourent. Donc on dit que la gratitude, c'est un mélange de ces émotions-là. Il y a de la joie, il y a de l'émerveillant, il y a cette reconnaissance au milieu de... On l'a surtout envers les gens autour de nous, reconnaissant de... Et c'est une question que vous pouvez vous poser là, de qui vous avez autour de vous et en quoi vous êtes reconnaissant de leur présence, de ce qu'ils apportent dans votre vie, de ce qu'ils apportent dans votre travail. Vous connaissez peut-être cette pratique des trois kiffs, les trois bonnes choses qui nous sont arrivées par jour. S'arrêter le soir, en fin de journée, pour regarder ce qui s'est passé d'agréable. Et ben, vous pouvez ajouter à qu'est-ce qui s'est passé d'agréable et de quoi vous êtes reconnaissant dans ces moments. La bobine de la gratitude que nous invite à dérouler Rebecca, c'est vous buvez un café, un thé chaud, là, en nous écoutant. Et ben, vous pouvez remonter ne serait-ce que votre tasse, le thé, l'eau, là où vous êtes assis, etc. Dans tous ces éléments-là, on peut se trouver de la reconnaissance à adresser à quelqu'un, à quelque chose. Et peut-être pour simplifier dans la reconnaissance, elle s'enrichit en réfléchissant à la reconnaissance envers les choses plus grandes que nous, la reconnaissance envers les autres. Et une très jolie à entretenir aussi, c'est la reconnaissance envers soi-même. Je te vois sourire, Laura, mais c'est ça, c'est reconnaître, avoir une reconnaissance envers ce qu'on s'apporte dans la vie, envers ce que l'on est, envers les moments qu'on s'offre. Tout à l'heure, on parlait des pauses et des bons moments. Bah, si vous arrivez ne serait-ce qu'à faire un petit truc sympa pour votre vitalité, vous pouvez aussi entretenir ce sentiment derrière de se dire et d'être reconnaissant envers vous-même d'avoir réussi dans votre semaine à vous octroyer ces 5-10 minutes de pause. Et ça s'entretient. Voilà, c'est une très jolie émotion parce qu'elle a plein d'effets sur nous, mais aussi plein d'effets sur les autres. C'est ça qui est agréable dans ces émotions, c'est qu'elles ont des effets sur la personne, mais aussi sur la société, parce qu'elles entraînent une santé aussi qu'on appelle sociale, santé mentale, santé physique et santé sociale. Donc il y a un impact très intéressant de ces émotions positives.
En t'écoutant utiliser tout ce vocabulaire, je trouve qu'on entend aussi beaucoup le vocabulaire des forces de caractère, de psychologie positive, par exemple sur l'émotion de l'émerveillement qu'on peut, j'imagine, assez bien relier à la force de reconnaissance de la beauté, par exemple,
Exactement, ouais.
dans des forces. Alors, je crois que beaucoup de nos auditeurs auditrices le connaissent, ce bilan des forces, par moi ou par d'autres professionnels, mais si, par exemple, il y en a qui se disent, bah, ouais, moi, je veux bien pratiquer la gratitude, mais moi, la gratitude, elle est en 23e sur 24e dans mon bilan des forces. Est-ce qu'on peut les développer, du coup, ces forces pour davantage ressentir les émotions, ou c'est en ressentant les émotions qu'on va développer la force? Quel lien on peut faire entre les deux?
C'est une bonne question. Ben, je suis déjà très contente si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sont au courant de leurs forces et conscients de leurs forces et qu'ils ont cette sensibilité pour les connaître et les utiliser. Déjà, je me bagarrerai pas en disant c'est ma 23e. Ma question, c'est pas de vous dire tout le monde doit avoir la gratitude. La gratitude, c'est intéressant à développer si aussi vous en ressentez l'envie et le besoin. Je dirais dans cette optique, déjà avant tout, parce que mon optique sur les forces, c'est que si c'est en bas de notre classement, est-ce que ça veut dire que c'est une force qui demande à être développée comme un potentiel ou est-ce que si elle est en bas, c'est quelque chose qui est pas trop moi, ça me parle pas trop? Et du coup, à voir, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est important dans votre relation à la vie, au monde, aux autres, ou pas? Et si ça vous intéresse, alors oui, ça se développe, ça se travaille, ces éléments, on parle des trois bonnes choses, des actes de reconnaissance. On peut s'entraîner, par exemple, à l'écrit. Il y a des pratiques comme le cahier de gratitude, les lettres de gratitude qui nous invitent à nous poser, à prendre le temps. C'est peut-être pas facile de s'arrêter tout de suite en disant de quoi on est reconnaissant, mais si une fois de temps en temps on trouve quelque chose, on l'écrit, eh ben on sera plus susceptible de le reconnaître la prochaine fois que ça nous arrive. Faire une lettre de reconnaissance à quelqu'un en se demandant, ok, il y a cette personne, elle est importante dans ma vie, mais pourquoi? Au début, on n'a pas les arguments peut-être, mais ça peut venir et ça peut nous aider à trouver. Comme la beauté et l'excellence, hein, c'est pareil. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça ne nous intéresse pas? Est-ce qu'on le fait parce qu'on doit? Voilà. Donc déjà, toujours Et je le mettrai toujours pour ça, la psychologie positive. Il faut qu'il y ait derrière l'envie, l'appétence, un besoin peut-être, mais c'est pas pour diffuser partout à tout le monde. Mais en tout cas, si ça vous parle, il y a plein de choses à y en faire et il y a des choses intéressantes à éprouver et développer ses émotions.
D'ailleurs, en t'écoutant sur cette notion de revenir à soi et est-ce que ça me parle, est-ce que c'est important pour moi, est-ce que ça résonne dans le système de valeurs, tout ça, je fais une parenthèse avant qu'on parle de la méthode Spark. Peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs, auditrices, qui voient pas bien la différence entre la psychologie positive et la pensée positive, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années dans le développement personnel. C'est quoi la différence, entre les deux?
Première chose qui me vient, c'est la différence entre la pensée et la discipline. C'est que dans la pensée positive, ça serait de valoriser des pensées qui amènent des bons éléments. La psychologie positive, elle nous amène des pratiques et il y a un caractère peut-être derrière scientifique et de recherche qu'il n'y a pas forcément dans la pensée positive. Aussi, si je reviens sur ce que je vous disais juste avant, c'est que pourquoi pas la pensée positive si ça vous plaît, si ça vous parle et si ça a un intérêt, mais peut-être ce que j'entends parfois dans la pensée positive, ou en tout cas le stéréotype qu'on peut s'en faire, c'est de vouloir mettre du positif absolument, ou cette injonction au bonheur, on en a beaucoup entendu parler, on a des personnes qui passent leur temps à parler de ça, et c'est important juste de dire, il n'y a aucune obligation à aller vers ça. C'est pas facile tout le temps, ça marche pas pour tout, mais par contre, il y a un intérêt à aller voir ce sujet, à aller l'explorer, à aller découvrir des pratiques qui viennent de la recherche si ça nous plaît, mais pas toujours que simplement magique en se disant que, un peu comme dans la méthode Coué aussi, qui est parfois amenée, on me demande la différence, c'est pas juste en se disant je vais bien, tout va bien, que tout va aller bien. Mais par contre, il y a des pratiques qui nous ont montré avoir des effets significatifs sur notre bien-être, sur nos émotions, sur nos relations. Et donc, si on y va et qu'on a envie, eh ben, il y a plein de choses à faire. Voilà. Comment je le simplifierais?
Alors, j'en reviens à ma méthode Spark, du coup, puisqu'il fallait qu'on parle de ça. C'est quoi cette fameuse méthode Spark? Et aussi, pour ceux qui nous écoutent, comment concrètement ils pourraient s'en servir au quotidien de cette méthode?
J'aime bien que tu l'appelles fameuse méthode Spark parce que elle nous a vraiment donné un sacré coup de main dans le Covid et en tout cas je dis nous mais surtout on a beaucoup partagé cette méthode dans des groupes dans les entreprises mais d'abord et avant tout auprès du grand public pendant la crise Covid où on a fait 300 personnes qui se sont formées à cette pratique. La méthode Spark pour la simplifier aussi, Spark ça veut dire étincelle en anglais. Garder l'étincelle dans la pénombre, c'est comme ça qu'on avait appelé le parcours. C'est comment je peux rebondir après des situations complexes ou stressantes. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai comme ressources que j'ai déjà en moi ou que je peux développer pour rebondir. Et on dit qu'on va sparker nos situations. Alors, il y a deux étapes importantes pour le simplifier et pour se dire dans notre vie. C'est que déjà, quand il vous arrive quelque chose de stressant, avant de vouloir que ça vous stresse plus, il faut comprendre ce qui nous stresse. Et le spark, c'est une façon de découper déjà ce qui nous arrive. Stressant, qu'est-ce qui est stressant? Le S du spark, qu'est-ce qui est stressant? Le P, ma perception, qu'est-ce que je me dis de cette situation? Le A, quel affect, quelles émotions j'ai dans cette situation? Le R, comment je réagis? Et le C, quelle conclusion j'ai dans ma tête de ce qui m'arrive, qu'est-ce que je me dis? Donc déjà, je décortique ce qui m'arrive de stressant en passant dans la boucle du Spark et en essayant d'écrire, vous pouvez vraiment écrire le Spark comme en rond sur votre feuille et essayer de mettre ces éléments en face. Une fois que j'ai posé les éléments, déjà souvent, je prends de la distance avec ce qui est stressant parce que j'ai bien compris qu'en fait, ce qui me stresse, c'est comment j'ai réagi parce que je lui ai claqué la porte au nez et là, je me sens très bien. Ou alors, ce qui me stresse, c'est que je me dis dans ma tête... C'est tout le temps de leur faute, ils me gonflent. Voilà. Donc déjà, on comprend un peu mieux. Et en fonction de ce qu'on comprend, la deuxième étape, c'est d'aller se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses, peut-être évoluer ma perception, réguler mes affects, réagir de façon plus responsable ou respectueuse, ou mettre de la compréhension sur cette situation, prendre de la distance, prendre du recul, chercher du sens. Voilà. Donc une fois qu'on a décortiqué, on va chercher des stratégies qui peuvent nous aider à, après avoir pris de la distance, à réguler ce qui nous arrive et surtout à digérer ce qui nous arrive pour en sortir grandi. Souvent, le stress, on veut le balayer d'un revers de manche, passer à autre chose Et en fait, ce que nous apprend le Spark, c'est que si on prend un tout petit peu de temps pour s'arrêter et réellement le dépasser, du coup, on en tire toujours un apprentissage. Et plus on fait ça, plus on développe des ressources de résilience. Et on est d'autant plus susceptible que lorsqu'une situation similaire se représente, on comprend notre mécanisme, on sait ce qui peut nous faire stresser ou nous arriver. Et on sait aussi déjà assez plus facilement quelles ressources on peut aller mobiliser. Voilà, mais ça peut demander simplement un travail un peu de conscience et de développement des ressources qui marchent chez certains et d'autres ressources chez d'autres. Est-ce que de cette petite aperçu tout ce qu'on peut faire, vous avez une vision un peu plus claire?
Ouais, je pense que c'est un outil, on va dire, un acronyme en plus qui, je trouve, dont on se rappelle assez facilement quand même, et qu'on peut mobiliser assez facilement au quotidien, comme tu disais déjà. Bon, ben, pour tout ce qui est question de résilience, si vous avez eu quelque chose de plus ou moins stressant, et puis pour la capacité à se décentrer et à se métapositionner un petit peu de l'événement X ou Y, quoi. Et puis effectivement, de voir aussi, je trouve ça intéressant, surtout si vous avez peut-être effectivement un carnet ou noté toutes les choses que Justine a évoquées aujourd'hui de gratitude ou autre, et peut-être du coup d'accumuler différents sparks, différentes
Exact.
analyses, et de voir peut-être l'évolution de la pensée, des réactions.
À fait, parce que si on arrive par exemple à comprendre que dans cette situation, pour réguler telle émotion de peur, de stress, d'anxiété, je trouve que cette stratégie m'aide bien. Vous voyez que ça peut facilement être une sorte de ressource dans votre cahier ou dans chacun des sparks. En fait, on peut sortir en avant et dire ça m'aide. Cette pratique sportive, cette pratique artistique, mais aussi d'appeler telle personne, etc., dans telle situation. Et en fait, plus on avance, plus on remplit. On l'a même dans un des modèles. Il y a même ce qu'on appelle le spark ressource. On remplit notre spark de plein de ressources, et plus il est fourni, plus on a des leviers pour rebondir quand c'est difficile. Voilà. Et ça s'entretient, en fait. Ça, c'est ce que la psychologie positive nous a montré. Par exemple, Barbara Fredrickson, elle avait commencé une étude sur les émotions positives avant des personnes qui ont vécu le 11 septembre, et elle a vu que ces personnes qui entretenaient leurs émotions positives plutôt naturellement étaient des gens qui ont réussi à, on va dire, à être résilients plus rapidement et plus durablement que des personnes qui avaient des plus faibles niveaux d'émotions positives. Donc, c'est pas juste pour faire joli de parler des ressources positives qui sont en nous, c'est des véritables préventeurs. Je sais pas si on peut employer ce terme, mais en tout cas, en faisant ça, on se donne toutes les chances pour être plus apte à faire front à ce qui peut nous arriver aussi de difficile dans notre vie, dans notre travail.
Ah, tu me fais une bonne transition pour le sujet d'après, parce que surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, en termes de stresseurs et d'émotions négatives, la question du temps, de la gestion du temps est un bon sujet pour cumuler des émotions négatives et du stress. C'est, vous en parlez aussi dans le bouquin. J'ai trouvé ça intéressant parce que je fais une parenthèse, mais des bouquins psy positifs, j'en ai bouffé plein. Et souvent, bah, il y a, comme on l'a dit au début, beaucoup de mental, beaucoup d'émotionnel. Ce qui est super, évidemment, mais on n'a pas le relationnel, pourquoi pas, mais la vitalité est souvent, comme on le disait au début, on le voit pas. Et alors le temps, ben, on le voit pas beaucoup non plus, hein. Donc je me suis dit, là, je peux pas louper la question, forcément. Et je sais que ça préoccupe beaucoup, bon, des entrepreneurs, entrepreneuses, mais bon, faut, d'une manière générale,
Tout
je... voilà. Je crois que
le
quand... Pour tous les Occidentaux, c'est une question
monde.
cruciale, ça. Alors, concrètement, comment on pourrait faire pour changer ou commencer à changer son rapport au temps pour en être plus satisfait, surtout cette sensation qu'on peut avoir de toujours courir après le temps et d'avoir jamais assez de temps pour rien, quoi.
Bon, j'aurais aimé qu'Ilona vous en parle parce que c'était son sujet de thèse, et c'est toujours un sujet qui la questionne à travers les années et qui nous questionne, je dis en soulignant ce clin d'œil, mais en fait c'est un sujet pour nous tous toute notre vie. Peut-être je vais juste vous partager, dans la psychologie positive, l'approche du temps est très intéressante. Enfin, c'est ce que j'ai découvert en approfondissant ce sujet aussi. C'est que on a souvent beaucoup de conseils sur comment gérer notre temps. Vous avez dû, dans vos livres, même d'entrepreneuriat, vos cours, vos réflexions, on a des millions de livres sur la gestion du temps. Il y en a très peu qui sont fondés sur de la recherche. Très, très peu. C'est-à-dire que c'est souvent des pratiques, alors qui marchent pour certains, mais qui peuvent aussi pas marcher du tout sur d'autres. C'est pas très, très étayé en termes scientifiques. Mais par contre, s'il y a quelque chose dans la recherche qui est bien travaillé, c'est notre satisfaction par rapport au temps. Et je crois que c'est ça déjà la meilleure façon de gérer son temps, c'est de se poser la question, est-ce que la façon dont j'ai passé mon temps aujourd'hui me satisfait? Et on court après le temps, certes, mais il y a aussi cette notion de temps subi ou de temps choisi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi bien dépenser le temps que j'ai? Parce que nos journées font toutes 24 heures, hein, toutes 24 heures, et même si on veut en mettre plus, ça rentre pas. Mais déjà, vraiment garder cette notion de est-ce que je suis satisfait de ce que je fais dans ma journée? Et puis après, on travaille avec la perception temporelle. Il y a des gens qui sont très ancrés dans un présent hédonique qui profitent. Il y a des gens qui ont une vision très futuriste. Il y a des gens qui sont un peu plus coincés dans leur passé, mais des fois du passé positif ou du passé négatif. Enfin, voilà, il y a des perspectives temporelles. On peut passer un test pour savoir un petit peu. Il y a des perspectives optimales. L'idéal, c'est d'être assez bien ancré dans son présent, avoir une vision future et avoir des bons éléments du passé qu'on balade avec nous. Bon, voilà, on comprend son fonctionnement, on comprend ce qu'on peut bosser, on comprend aussi comment on peut être assez équilibré dans ça. Mais vous êtes d'accord, ça nous donne pas non plus des tips concrets là, à part répondre à cette question. Il y a des choses que qu'on aime bien donner comme des astuces un peu marrantes en psychologie positive, par exemple, c'est ajouter dans vos listes, dans vos to-do listes du jour, la partie TADA list. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ok, on rajoute les éléments qu'on fait sans se faire prier et on les barre, on les surligne, on les TADA. C'est ça la phrase, je la trouve très sympa celle-là, et d'ailleurs très utile pour repérer ses forces, parce que c'est toutes les activités que vous faites naturellement sans vous priver et que vous allez naturellement faire, donc qui sont sûrement susceptibles de parler de votre motivation intrinsèque, de vos forces. Une autre qui est très sympa pour avoir la sensation d'avoir bien utilisé son temps, c'est l'anglais nous dirait « eat the frog first ». Commencez par manger la grenouille, le truc le moins sympa de la journée. Faites-le au début de votre journée. Le mail embêtant, le projet sur lequel, commencez par ça, et ça donne une sensation de satisfaction de se dire « ça y est, aujourd'hui, j'ai déjà fait le plus gros truc que je dois faire. Si on y arrive, c'est plutôt bien. Donc, si vous avez à vous planifier des journées, peut-être ce serait déjà ces éléments-là. Et puis, un petit peu de planification avec une priorité du jour, deux ou trois objectifs à faire dans votre journée max, et puis deux ou trois activités ou pauses ou choses qui font du bien. Ben, peut-être des fois juste cadrer ça. Ça, c'est votre liste à faire à vous, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre journée, une journée bien réussie? C'est avoir rempli trois gros objectifs, fait une pause, deux pauses, c'est avoir eu le temps de manger, c'est, je sais pas. Eh ben, regardez ça et regardez si dans vos journées, vous arrivez à mettre ces éléments qui vous donnent cette satisfaction-là. Et que c'est aussi normal de temps en temps être dépassé, de plus avoir le contrôle sur son temps, mais c'est toujours cette notion-là, d'essayer de comprendre ce qui fait qu'on est insatisfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus satisfait de ces 8, 10, 12 heures qu'on passe à travailler dans nos journées et même à passer notre journée en général, hein, pas qu'au travail.
Je rebondis parce que t'as réutilisé le terme de motivation intrinsèque, tu l'avais utilisé au début, et je me dis que ça vaudrait quand même le coup pour nos auditeurs, auditrices, que tu nous expliques ce que c'est la motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque.
Ouais. C'est le sujet central du livre dont on parle aussi, mais c'est hyper important. La motivation intrinsèque, ça s'oppose à la motivation extrinsèque. Et la motivation extrinsèque, c'est quand on fait les choses pour des raisons extérieures à soi. Par exemple, dans le travail, on peut faire son travail parce que pour son salaire, on peut faire son travail parce qu'on en a des obligations ou des causes externes. Et puis, la motivation intrinsèque, c'est quand je fais les choses parce que je suis motivée à les faire et que ça vient de moi. Alors souvent, je le simplifie en disant je fais plus les choses parce que je suis obligée de les faire, mais je fais les choses parce que j'aime les faire, parce que je trouve un intérêt à les faire. Je veux pas vous dire que vous aimerez tout ce que vous avez à faire, mais il faut voir ça. Les chercheurs, Desi et Ryan parlent d'un continuum de motivation. plus on se décale de la motivation extrinsèque vers une motivation intrinsèque, plus on gagne dans cette motivation, plus on est susceptible de faire les choses. Et je crois, en particulier encore, les entrepreneurs qui nous écoutent, plus on se connecte à l'intérieur de soi et ce qui nous motive, ce qui nous donne envie d'avancer. Et puis, je crois aussi ce qui va nous donner aussi des clés pour motiver les autres autour de nous, leur donner envie de s'investir, peut-être dans notre projet, par exemple. Donc, on se partage des billes. Mais chacun fonctionne aussi en motivation intrinsèque avec des choses qui marchent pour lui, qui ne marchent pas forcément pour le voisin. Donc, on peut aussi aller explorer nos fonctionnements et nos complémentarités.
Je ne sais pas si tu connais Anna Tcherkassov, qui est une des profs à la fac de Grenoble en psycho. Moi, je l'avais eue en psychologie sociale. Et alors, elle nous avait raconté en première année ou deuxième année, je ne sais plus, peu importe. Et alors, je ne sais plus si c'est à elle que c'est arrivé ou si c'était une expérience psychosociale. À tous les coups, ça doit être un Cialdini ou un auteur de ce genre-là, mais peu importe, qui travaille à la maison et qui essaye d'avancer sa thèse ou son bouquin. Mais les gamins du quartier ont pris la porte du garage pour... Le but de foot, tu vois. Donc toute la journée, en temps le ballon, c'est qu'il tape, voilà. Et il ne faut jamais avoir des parents ou des voisins qui sont des psychologues sociaux. C'est les pires en termes de persuasion. Et du coup, cette prof ou le chercheur dont elle nous parle, je me rappelle plus, est allé rémunérer en fait les gamins qui jouaient en disant, je vois que vous mettez un but, je vous file 50 centimes. Et en fait, au bout de 4-5 jours, la motivation était devenue tellement extrinsèque parce qu'ils venaient pour gagner leur argent et plus parce qu'ils avaient intuitivement et vitalement envie de jouer au foot que finalement ils ont laissé tomber, ils sont plus venus jouer au foot. Ça avait marqué cette
On parle un petit peu de ça, on parle de ça, de ce qui vient nous toucher, nous, profondément, et ce qu'on fait par ce qui nous anime. Voilà. Et ça, c'est, tu parlais des forces, et c'est toujours, je pense, un des leviers les plus forts, c'est cette notion de maîtrise, de compétence, sentir qu'on y va parce qu'on fait des choses avec ce qui nous anime, nous, ce qui nous donne de l'énergie. Et vous le savez, dans la motivation intrinsèque, mais les trois grands leviers des chercheurs, c'est le sentiment de compétence, de maîtrise, mais aussi l'autonomie et les relations qui vont nous aider à nous connecter à cette motivation intrinsèque, mais plein d'autres leviers aussi qu'on a vu dans le livre, comme le sens, par exemple. Aussi. Mais c'est intéressant d'avoir cette optique quand vous faites les choses dans votre vie, dans votre travail, dans vos activités, d'aller chercher à les faire parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est animé à les faire. Ce mouvement-là, il n'est pas possible surtout, mais on peut quand même y mettre un peu plus de soi, un peu plus de ce que l'on est. Je dis souvent, par exemple, si vos forces, vous les mettez dans ce que vous avez à faire, vous allez gagner naturellement en motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque au travail, c'est ça l'engagement dont je vous parlais aussi tout à l'heure. C'est la même chose, donc ça marche dans le champ de la vie personnelle et professionnelle.
Ah, justement, tu parlais du sens, donc c'était mon avant-dernière question, puisque vous en parlez à la fin de votre livre, toutes les deux, sur cette fameuse cruciale question du sens au travail, sujet qui est d'autant plus d'actualité, parce qu'on en parle beaucoup ces dernières années, et puis dans cette grande vague de démissions qu'on connaît actuellement. Bon, comment on fait concrètement, une question qui à 10 000 euros là, comment on fait pour trouver du sens dans son travail? Est-ce que un jour on peut espérer avoir la réponse? Parce que des fois je vois beaucoup ça ces dernières années, qu'il faut trouver le sens au travail, la réponse. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces sujets?
Bon courage. Non, je dis en souriant, mais il n'y a pas la bonne réponse. Sinon, j'espère que celui qui l'aurait trouvé nous l'aurait partagé et on en parlerait tous les jours. Mais par contre, il y a des réponses. Viktor Frankl, qui est un des psychologues qui a créé la psychologie existentielle, la psychologie du sens, il donne cette... je ne dirais pas aussi bien que lui dans sa citation, mais il dit, c'est comme si on demandait à un joueur d'échecs quel était le meilleur coup des échecs. Et il explique qu'il n'y a pas de meilleur coup en dehors d'une situation particulière, un adversaire particulier. Et en fait, c'est la même réponse qu'il donne pour le sens. Il dit, il n'y a pas un sens, il y a des sens. Et il y a des sens en fonction des personnes et du sens à trouver qui nous touche à un moment donné. Mais peut-être aussi ce qui est intéressant, c'est pas d'attendre le sens, mais c'est de faire sens, c'est de dessiner son sens. Et il nous donne plein de conseils à ce titre-là en disant il faut vivre, expérimenter, voir dans l'extérieur ce qui revient vers nous et ce qui nous touche en fait dans ce sens. C'est pas juste nous-mêmes, c'est en vivant des expériences, par exemple des expériences de rencontres avec des gens qui nous ont marqués. Moi, j'aime bien des fois passer dans mes interventions ou ma formation sur le sang, autour des œuvres d'art qui nous ont touchés, des livres qui vous ont épatés, des chercheurs qui vous plaisent, des auteurs, des entrepreneurs qui vous inspirent, voilà, les rencontres, les œuvres, la création, des fois les situations aussi difficiles. On a parlé tout à l'heure du spark. Moi, je trouve que c'est très relié, ces deux sujets. Alors, pas toujours que relié, c'est pas que l'adversité qui amène du sens, mais dans ce qui est dur, souvent on a ces moments un peu, on dit d'insight, là, ces moments où on se dit, ça a été compliqué, j'en suis sortie, grandie, j'ai appris, etc. Donc, on peut aussi faire sens de ces moments complexes, mais pas forcément besoin d'attendre ces moments complexes pour avoir du sens dans sa vie, dans son travail. On peut chercher à le travailler, à l'investir, mais ça veut dire se poser aussi ces questions. On a vu un truc très très intéressant sur le sens au travail, c'est que on parle dans le livre du triangle du sens. On dit que dans notre motivation et notre satisfaction au travail, il y a en fait trois sens qui sont très importants à développer. Sens du travail, évident. À quoi il sert mon travail? Pourquoi c'est utile de le faire? Sens de l'entreprise ou l'organisation que je crée ou dans laquelle je travaille, c'est quoi la mission vous avez déjà entendu ces termes, la raison d'être, la mission de mon organisation. C'est un véritable levier, surtout pour ceux qui montrent leur entreprise ou qui la créent ou qui à un moment la partagent à des prospects, à des clients, mais aussi qui recrutent ou cherchent à recruter. Plus cette raison d'être, elle est explicite, plus vous allez pouvoir toucher des gens et recruter des gens qui sont sensibles et qui sont prêts à passer leur vie à travailler pour votre raison d'être. Ça, c'est très fort. Et puis le troisième sens, moi qui m'a très surpris au résultat de la recherche, c'est le sens de la vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire le sens de la vie au travail, dans la motivation et l'engagement au travail? Laissons les gens, c'est leur jardin secret, ça. Bon, en fait, réponse assez simple, hein. Le travail est un des éléments de notre vie, mais si le travail, ça n'a pas de sens dans notre existence en général, ça va être très compliqué d'être satisfait et motivé au travail. Si par contre, le travail pour nous, c'est une des sources importantes de sens dans notre vie, alors vous comprenez qu'il va avoir. Voilà. Donc, ces trois sens-là, ils sont intéressants à comprendre et du coup intéressants à travailler. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais par contre, vous pouvez vous arrêter à chercher. Comme je vous disais tout à l'heure, les rencontres à travers l'œuvre d'art, à travers les situations complexes. Il y a une pratique ou deux pratiques que j'aimerais bien vous inviter à faire. Au début, elle est présentée un peu difficilement dans la psychologie positive parce qu'elle s'appelle l'épitaphe. Si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est un peu complexe. L'épitaphe, hein, c'est le truc qu'on lit quand on est décédé ou qu'on dit sur une personne quand elle est morte. Et il y a une pratique de psychologie positive qui dit écrivez votre épitaphe. Mais attention, c'est pas juste écrivez votre épitaphe comme ça, c'est écrivez en un chapitre court, une page, deux pages max, ce que vous aimeriez qu'on dise de votre vie et de ce que vous avez fait de votre vie et ce que vous avez réussi dans votre vie. Cet exercice, il est émotionnellement assez impactant si vous vous lancez, donc allez-y tranquillement, parfois en plusieurs étapes, mais mis dans le travail, moi j'aime bien aussi parler du pot de départ à la retraite. Ça marche pareil, mais cette fois-ci on fait un focus sur son travail, c'est-à-dire qui vous aimeriez qui parle à votre pot de départ à la retraite et qu'est-ce qu'on aimerait dire sur votre carrière, sur ce que vous avez fait, sur ce à quoi vous avez servi, sur ce que vous avez partagé aux autres, des relations que vous avez créées, etc. Et parfois cette projection idéaliste futur, c'est une façon de reconnaître dans ce texte les valeurs que l'on a, les valeurs personnelles, les valeurs professionnelles, les valeurs d'entreprise. Mais c'est aussi à l'intérieur des vraies pistes pour déterminer sa boussole, en fait, vers quoi aller. Et à l'intérieur de ça, si vous considérez que c'est ça que vous voulez qu'on mette en avant dans votre vie, dans votre carrière, ça veut dire ici que c'est des choses qui font du sens pour vous. Et donc, ce que je voudrais bien vous faire passer, j'espère, c'est ça se. On peut chercher à faire sens. On ne doit pas juste attendre d'un coup que le sens de notre vie ou notre sens de travail arrive comme ça. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, et je pense que ces questions du sens sont aussi relatives à la crise sanitaire qu'on a vécue. Métier essentiel, non essentiel, à quoi ça sert ce que je fais tous les jours. La grande démission peut être aussi relative à ces moments de grandes questions de vie qui ont amené cette pandémie. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on est dans une perte de sens, dans ces névroses existentielles dont on parle, mais plutôt se dire c'est des opportunités pour aller réfléchir au sens et faire sens. Et y a plein de jolis travail. Le chercheur que je voudrais vous inviter à voir, en tout cas, si ça vous intéresse en français, c'est Jean-Luc Bernot du CNAM. Moi, c'était un de mes profs dans mon école de psycho, et passionnant tout ce que vous pourrez découvrir sur ce sujet, et ça nous rend acteurs du sens. Voilà.
Je pense aussi, par rapport à l'exercice de l'épitaphe, effectivement, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, mais qui peut-être sont un peu réticents, anxieux sur peut-être le rapport à la mort que ça peut générer, il y a effectivement, ouais, la variante entre guillemets du pot de départ. Il y a la variante de l'exercice des 85 ans.
Oui, l'anniversaire des 80 ans, voilà aussi, c'est, ouais, c'est voilà. 85, peu importe. Ouais.
Oui, peu importe. Qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, est la version qu'utilise Rebecca Chanclan dans le programme CARE. Si je dis pas de bêtises.
Oui, ben, c'est une variante qu'on fait justement pour enlever aussi cet élément un petit peu confrontant à la fin de vie. Donc voilà, en tout cas une projection lointaine qui permet la projection idéale. Et on s'autorise à ce moment-là à mettre ce qu'on aimerait idéalement entendre. Voilà, vraiment, on s'autorise à aller dans ça. Donc c'est vraiment très chouette à faire comme exercice, et qui d'ailleurs évolue au cours du temps. Donc vous pouvez le faire, même si vous l'avez déjà fait, c'est pas du tout un problème de reprendre et de voir si vous êtes resté dans la même direction ou s'il y a des nouvelles choses qui sont apparues.
Eh bien, écoute, Justine, on arrive tranquillement à la fin de notre échange. J'aurais quand même te poser la question signature du podcast. Surtout, alors ma question signature me fait rire dans ton cas, parce que forcément, demander ça en psychologie positive, c'est marrant. Mais quels seraient tes conseils pour entreprendre ou vivre heureux?
C'est pas facile, cette question de forme. Mais tes questions sont pas faciles, on va. Hein. Ouais. Mais comment, alors, vivre heureux, entreprendre en étant heureux, j'essaie de rester dans tous les sujets de la psychologie positive dont on vient de parler, mais j'essaie de faire simple après toutes ces grandes phrases, en étant simplement soi et heureux d'être soi. Voilà. Je pense que ça me va bien comme fin. Et le sujet des forces ici, il est trop joli pour dire, vous avez tous, et on a tous des belles pépites, des belles qualités, des choses qui nous rendent authentiques, dans lesquelles on est bon, dans lesquelles on est motivé, énergisé, et plus on est conscient de ça, plus on s'en sert, plus on sera présent dans notre vie, en phase avec ce qu'on a envie, avec du sens, et heureux, je vous le souhaite, le plus heureux possible.
Très bien, c'est une très belle conclusion. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on termine là-dessus?
Ça me va, moi, de m'arrêter avec ça.
Eh ben, très bien, on termine là-dessus. Alors, merci beaucoup, Justine, pour les réponses à toutes mes questions parfois compliquées, hein, des grandes questions existentielles. Je crois que la psycho n'en finira jamais aussi de flirter avec la socio, la philo, avec des fois plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ouais.
Sympa. C'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter. Il n'y a pas de réponse clé, mais en tout cas, on cherche à comprendre, à investiguer, à développer des choses qui nous aident à créer. Hein. C'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans l'humain. S'il y avait des protocoles et des choses tout établies, on serait plus des robots que des êtres humains. Donc, tant mieux, gardons cette complexité de réflexion et échanger dessus, c'est toujours passionnant.
C'est vrai. Bon, bah, ça fera une double belle conclusion. Merci d'avoir répondu
à mes questions. Merci pour ton invitation et merci à tous pour votre écoute. Ouais.
Merci à Ilona par procuration. Et évidemment, comme d'habitude, vous avez l'habitude, auditeur, auditrice, le lien vers le livre est dans la barre de description ou l'article associé selon la plateforme où vous nous écoutez. Voilà. Merci beaucoup, à très vite.